Véritable globe-trotteur, Philippe Mollet découvre constamment à travers la planète les lieux, les concepts et les produits qui font la richesse de l'agroalimentaire. Pour lui, le futur marché public de Québec, que l'on appelle pour l'instant le grand marché, ne doit pas dévier d'une ligne directrice qui garantit le succès ailleurs dans le monde. Le marché doit être authentique et refléter le terroir local et régional. Et ce terroir, il faut le cultiver, le développer.
J'ai eu la chance, au cours de ma carrière, et particulièrement depuis 10 dernières années, à visiter une centaine de marchés à travers le monde, en partant de Tahiti à Tokyo, à Budapest, à l'Europe et les États-Unis, à Nouvelle-Orléans. Et j'estime qu'il est fondamental aujourd'hui pour une grande ville, la capitale nationale, de pouvoir avoir un grand marché digne de ce nom. Qu'est-ce que c'est qu'un grand marché digne de ce nom ? Eh bien, c'est avant tout un point de ralliement, un point de rencontre, un point que l'on nomme à l'étranger comme « il faut aller voir ». Je vous donne un exemple. J'ai été surpris il y a quelques semaines, j'étais à Tokyo lors d'une visite et encore et encore et encore, je retourne à chaque mois visiter ce marché que tu dois connaître, Jean, qui s'appelle le marché Tsukiji à Tokyo, qui est un immense marché de poissons reconnu dans le monde entier. Eh bien, imaginez-vous qu'à 3 heures du matin, on voit des touristes venir, de moins en moins autorisés parce qu'il y a maintenant trop de monde, venir visiter ce marché qui est devenu un point d'attraction unique au monde. C'est un peu ça pour moi un grand marché national, comme je le vois par rapport à la ville de Québec. Il y a des points qui sont essentiels, par contre, pour réussir ce challenge qui n'est pas moindre, qui est très intéressant et qui est un rassemblement de la ruralité à l'urbanisation. On ne peut pas occulter le savoir-faire des agriculteurs, des transformateurs, des producteurs et ne pas le mélanger, ne pas expliquer ce savoir-faire aux gens de la ville. C'est le rat des villes et le rat des champs presque. Donc il y a cette expertise de l'agroalimentaire qu'ont les producteurs à venir partager dans un marché, un grand marché, ce savoir-faire qui est unique. Par exemple, un fromager qui va avoir l'occasion de faire un fromage de chèvre particulier ou les gens de Charlevoix qui vont faire un canard particulier. Donc il y a ce savoir-faire qu'il faut venir expliquer à la population. À travers toutes ces villes, il y a une chose qui est essentielle aussi, c'est le partage. Vous savez, il n'y a rien de mieux que de pouvoir expliquer ce qu'un métier a comme valeur et il ne faudrait surtout pas tomber dans le piège, et j'insiste sur le fait, que ce marché devienne un grand supermarché. J'insiste vraiment sur le fait parce que c'est souvent ce qu'on peut retrouver dans la modernité où on veut encercler dans un espèce de sarcophage un certain nombre de commerçants en oubliant le contact humain. Et là, à ce moment-là, ça serait à mon avis une erreur. Par contre, si on est capable d'insérer un centre de culture, un centre de valorisation des métiers de bouche, un centre d'expérimentation, par exemple, avec l'Université Laval sur des procédés alimentaires et ainsi de suite, sur la salubrité, différentes choses qui captivent l'opinion publique, à ce moment-là, on peut espérer avoir un grand succès. Mais il ne faudra jamais oublier qu'un grand marché, c'est aussi de le faire vivre à l'année.
Et pour que ce marché vive à l'année, il faudra garnir l'endroit très généreusement et de façon originale et tisser des liens plus concrets, plus étroits que jamais entre les producteurs, les artisans de l'agroalimentaire et d'autre part les restaurateurs ou quiconque peut faire connaître la richesse des productions régionales. L'authenticité, rappelle le chef Jean Soulard, passe par le contact humain que le futur marché devra favoriser.
Cette relation qui ont fait que les produits se sont développés à l'intérieur de nos restaurants, à l'intérieur des hôtels, les clients qui sortent, qui vont dans les restaurants ont pu voir ces produits-là et par le fait même ont voulu les demander une fois qu'ils sont allés dans leur épicerie. C'est l'essence même des contacts humains que parlait Philippe. Il n'y aurait jamais eu cette effervescence de ces produits si un chef et un producteur, un artisan producteur, ne s'étaient pas contactés. Par la suite, on a pu voir, non seulement les voir dans les petites épiceries, mais dans les marchés publics, et de voir cette expansion. Aujourd'hui, je dis qu'on a une cuisine québécoise parce que, avant tout, nous avons des produits québécois, peu importe qui les cuisine, qu'ils soient vendéens ou qu'ils soient d'une autre région. Et dans cette même philosophie, je crois qu'un marché, c'est avant tout ça. On peut rêver sur la lumière, sur les activités, mais avant tout, ça sera... Quand je vais dans le marché du Vieux-Port et que je vous dis bonjour à chaque fois, c'est un plaisir pour y être. Le marché du Vieux-Port, pour moi, c'était non seulement un marché qui était à côté du château, mais c'était un marché qui vivait aussi avec les gens qui étaient autour. Je pense que le travail qu'il va falloir faire, c'est d'amener les gens de Sainte-Foy, de Beauport, de Charlebourg, à l'intérieur de ce marché. Ce n'est encore pas un automatisme dans la ville de Québec. Si ça l'est peut-être encore un peu dans la ville de Montréal, on n'a pas encore ce réflexe de, je sais pas, d'aller acheter son pain tous les jours, par exemple. Okay? Le marché du Vieux-Port est encore un marché, on va dire, touristique. Le samedi, le dimanche, on va faire une marche dans le Vieux. Et puis, bien sûr, on va s'arrêter dans le marché pour acheter le premier crabe ou le premier homard qui arrive. Quelque chose qu'il faudra développer. Les défis, vous les avez nommés et vous les connaissez en partie. Mais rien pourra être fait sans ce contact humain avec ces petits producteurs, avec ces produits qui méritent encore à être développés. Tu mentionnais le poisson. Il y a encore une avenue à faire à l'intérieur du poisson. Il faudra qu'il garde cette essence que doit avoir un marché public, ce marché de gens, artisans, passionnés.
Le marché de Québec doit devenir une vitrine vivante, animée, attirante pour les produits agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale. Mais n'oublions pas qu'il s'agit tout de même d'abriter dans ce lieu dynamique des activités de commerce. Le professeur de l'Université Laval, spécialiste des marchés de l'agroalimentaire, Maurice Doyon, a quant à lui abordé la question avec beaucoup de réalisme, car n'oublions pas que ce ne pourra pas être que par le grand marché d'Exposité que va s'accroître la part des produits locaux et régionaux dans l'offre alimentaire.
Moi, je ne vais pas parler du marché public, ou très peu, plutôt me concentrer sur la place de la production locale sur nos marchés. Et bien que les tendances de consommation semblent favoriser la place de nos produits locaux, la réalité, c'est que la grande distribution ou la structure actuelle fragilise cet accès-là. Et j'aimerais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je suis désolé si je fais mon professeur d'université peut-être un petit peu trop. Mais quelques statistiques. 81% des dépenses alimentaires sont dans les magasins d'alimentation. Et si j'inclus les grandes surfaces, donc si j'inclus Costco et Walmart et ces grandes surfaces-là, c'est 95%. Donc, on achète nos aliments dans les magasins d'alimentation principalement. Et si on regarde les trois grandes chaînes, elles ont 69% du marché au Québec. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, en 2012, la marge bénéficiaire de ces grandes chaînes-là, puis là, je m'embarque dans des statistiques, mais vous allez voir où je m'en vais avec ça, leur marge bénéficiaire a été de moins de 1%. Donc, des marges très, très faibles. Alors que si je regarde les grandes surfaces, en moyenne, c'est autour de 6%. Donc, un écart considérable. Comment expliquer cet écart? C'est tout simplement que les grandes surfaces, finalement, elles ont une quantité de biens alimentaires qui est beaucoup moindre qu'un magasin spécialisé en alimentation, comme un IGA ou un métro. Et elles ont une marge bénéficiaire beaucoup plus importante sur le reste des marchandises. Donc, en moyenne, elles s'en sortent bien. La problématique, c'est qu'elles imposent leur modèle d'affaires à nos distributeurs qui, eux, ont 100% de leur chiffre d'affaires avec cette très faible marge. Donc, ça les rend relativement vulnérables. Et ça crée des situations qui sont difficiles pour nos transformateurs, pour nos producteurs, pour éventuellement accéder aux tablettes. Alors, ce modèle d'affaires-là, finalement, force nos grands distributeurs à aller chercher des efficiences. Donc, sans entrer dans le technique, mais il y a le Efficient Consumer Response, le ECR. Ça implique, dans le fond, des coûts pour les fournisseurs. Ça implique d'un partage des fonctions marketing. Ça implique que tu dois avoir des logiciels. Tu dois être capable de gérer les stocks, de recevoir un appel comme quoi, « Oups, tu as moins de pain sur ton, tout à coup sur l'étalage. Il va falloir que tu envoies quelqu'un, puis ainsi de suite. » Donc, il y a des coûts. On a la gestion par catégorie où on va créer un capitaine, même parfois de catégorie. On va dire, « Toi, tu es le capitaine. Tu vas gérer les autres fournisseurs, et ainsi de suite. » Donc, on donne à un fournisseur la gestion des autres fournisseurs, en quelque sorte. Alors, Lorsqu'on regarde ça, on a dit on a trois grandes chaînes, 69 % du marché, mais malgré ça, il y a énormément de compétition horizontale entre eux. De façon, leur marge l'indique, leurs marges sont très, très faibles. S'ils étaient en situation de pouvoir de marché, les marges seraient beaucoup plus élevées. Mais là où ça se complique pour nos fournisseurs, c'est que cette recherche d'efficience, dans le fond, implique des coûts pour les fournisseurs. Pour avoir ces coûts-là, ça me prend une certaine taille et parfois je vais perdre des joueurs. Et elles ont également, les grandes chaînes, un contrôle de l'information. Et là, leur concentration, finalement, leur donne un pouvoir de marché qu'on pourrait dire vertical. Beaucoup de compétition horizontale entre les grandes chaînes, mais au niveau de quand je fais affaire avec la chaîne, avec mes fournisseurs notamment, là, j'ai un pouvoir de marché. Et ça amène des pratiques commerciales. Et là, nos fournisseurs ont souvent beaucoup de récriminations envers les pratiques commerciales auxquelles ils font face. Et on parle même, on pourrait parler dans la littérature, on parle de promotion réseau coercitive. Et je vous nomme juste quelques frais auxquels parfois nos transformateurs doivent faire face. Des rabais sur facture, facturation rétroactive, ce qu'on appelle le bill back, des produits gratuits, des frais de listage pour l'accès aux tablettes, payés pour financer les inventaires, allocation pour l'affichage, publicité coopérative, articles promotionnels pour le distributeur, des frais de retard de livraison, des frais de déchargement à l'entrepôt, des frais pour quantité non livrée. Il y en a plein. Il y en a plein. Et ça, c'est comme un peu des frais cachés pour eux. Et on a un mécanisme de décision qui est centralisé pour négocier avec les fournisseurs. Bref, les ressources nécessaires pour accéder à la grande distribution sont de plus en plus importantes et ça, ça fragilise les plus petits.
Ici Lionel Levac. Dans 2 ans, le grand marché de Québec ouvrira ses portes. On verra alors s'il comble tous les espoirs et s'il devient la référence canadienne comme outil de stimulation de l'agroalimentaire de la région de la capitale nationale.